Moi, ce que j'ai compris à cette époque-là, c'était « t'es un peu trop ronde, ma fille, arrête de manger des gâteaux et va faire du surf. Et que tu sois championne d'Europe ou pas, on s'en fiche un peu, quoi, en fait. »
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Quel bonheur de vous retrouver dans ce premier épisode de la saison 3 où l'on a voulu mettre du soleil, du sable fin qui glisse entre les orteils et le bruit des vagues dans vos oreilles. Vous avez donc rendez-vous avec Joanne Defay, la meilleure surfeuse tricolore et seule française qualifiée à 27 ans pour les JO de Tokyo où le surf fait son apparition pour la première fois. Vous vouliez savoir à quoi ressemble le quotidien d'une surfeuse pro ? Eh bien, vous allez être servie et vous allez sûrement être surpris. Loin de la vie de rêve qu'on peut s'en faire, être surfeuse professionnelle comme Joanne, c'est être dépendante d'un sponsor qui te permet de partir à seulement 13 ans en compétition et être virée par ce même sponsor parce que tu ne réponds pas à certains critères de beauté. C'est voir son corps mis au premier plan plutôt que ses résultats sportifs. C'est une volonté de faire et un travail acharné pour rester au meilleur niveau quand le niveau mondial a explosé en une petite dizaine d'années. Le surf, selon Joanne, c'est un vrai métier, mais c'est aussi une passion brûlante qu'elle souhaite aujourd'hui plus que tout partager. Son parcours est celui d'une gamine qui ne pensait pas faire du surf son métier, dont la vie lui a parfois fait boire la tasse, mais qui a finalement décidé de prendre son destin en main en essayant de ramer plus fort que les hommes pour surfer la vague du succès. Salut Joanne!
Salut!
Comment ça va? C'est la première question que je voulais te poser. C'était savoir comment t'allais. Alors, c'est vraiment la question de base, mais juste pour une raison très simple. On vient de finir l'année 2020 qui a été compliquée, je crois. Et puis, t'as reprise à la compétition qui n'a pas forcément été évidente non plus. Donc, comment ça va?
Ouais, ça va. Non, ça va. Franchement, c'est cool. Notre reprise de compète a été assez. Assez folle en émotion, je dirais. Donc, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de changements avec ces histoires de Covid, de protocoles et tout ça. C'est assez différent de ce que j'ai pu, enfin, que ce que tout le monde, hein, tous les surfeurs et je pense tous les athlètes ou toutes les personnes qui travaillent ou non ont pu connaître cette année, quoi. Et là, première compétition de nouveau. Ça a été un long process, je pense, pour la World Surf League. Donc, c'est la ligue privée américaine qui s'occupe, en gros, du surf professionnel.
Ouais. Et on y reviendra après.
Ouais, voilà. Mais du coup, beaucoup de protocoles, beaucoup de papiers à faire, beaucoup d'incertitudes quand même, parce que mine de rien, même s'ils ont, beaucoup bossé pour que ça ait lieu, il y a vraiment quand même des incertitudes pour les gens qui voyagent, par exemple. Donc, quand t'es américain et que là, c'est les compétitions sont sur le sol américain, ça va. Mais en gros, quand t'es étranger, ils te disent, voilà, alors là, tu feras un test rapide à cet endroit-là, mais bon, par exemple, moi j'étais à San Francisco et j'ai jamais réussi à avoir un rendez-vous. Du coup, il disait tu verras si tu peux le faire ou pas. C'était assez c'était assez flou, du coup, assez stressant. Voilà,
ouais, j'imagine que là la saison elle doit être un peu compliquée. Après, toi, on va dire, tu as la chance d'avoir déjà ta qualif pour les JO qui est déjà actée,
ouais.
Donc 2021, normalement, on espère,
ouais, exactement.
C'est intéressant aussi, tu vois, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, nous, personnes lambda, on se rend compte de la situation sanitaire, mais ça nous impacte pas tous de la même façon, on va dire. Donc, effectivement, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir aussi ton point de vue sur toi, parce que c'est ton métier, hein, de surfeuse professionnelle. Donc, de la façon dont ça t'impacte, effectivement.
Et ouais, c'est vrai que on se rend pas forcément compte. Encore une fois, par exemple, après, c'est arrivé à d'autres en France, mais... Bah, pendant le premier confinement, on n'a pas pu aller s'entraîner. Et, les plages étaient fermées, du coup l'océan aussi. Et j'ai pas surfé, je me suis pas entraînée pendant genre 8 semaines. Ensuite, la plage a été fermée encore 15 jours après, même après le déconfinement. Donc on n'a pas surfé pendant 10 semaines. Et moi, le temps que je rentre aussi d'Australie et tout, ça m'avait pris un peu de temps. Enfin, en gros, j'avais pas surfé pendant genre 11-12 semaines parce que, bah, à cause de la situation, quoi. Après, c'est arrivé à d'autres sportifs, des sports co, etc. Mais c'est vrai que le surf, au final, c'est quand même un sport hyper solitaire. T'es tout seul sur ta planche, t'es en milieu extérieur, t'es dans l'eau. Ça paraissait un peu plus aberrant de pas pouvoir pratiquer ce sport, quoi. Et encore plus quand c'était ton travail. Mais voilà. Bon, ouais, du coup, c'est un des exemples, par exemple. Puis c'est vraiment culturel. C'est pareil, le surf en France, culturellement parlant, c'est pas très connu, quoi. Les gens, ils voient ça plutôt comme un sport de loisir. Et par exemple, là, quand je demande aux Hawaïens comment ça s'est passé le confinement, et la direction d'Hawaï, enfin l'État d'Hawaï, a vraiment décidé que l'accès à l'océan serait toujours permis, parce que c'est justement ça qui permettait à la population de se sentir bien dans leur tête, d'être équilibrée, de pouvoir aller dehors et faire de l'exercice. Mais voilà, c'est vraiment la culture ici. Comme en Australie, c'est pareil, t'avais pas le droit d'aller sur la plage, t'avais pas le droit justement d'aller à la plage, mais t'avais le droit d'y aller pour faire de l'exercice. Donc, tu sortais de ta voiture, tu prenais ta planche, t'allais surfer et hop, tu rentrais. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, ça vient vraiment plus de la culture finalement que d'autres choses, quoi.
On y reviendra après, ouais, c'est clair, parce que j'ai pas mal de petites questions là-dessus aussi, effectivement, parce que le surf en France, je pense que c'est méconnu, en tout cas, je pense que c'est mal connu. On y reviendra. Moi, j'aimerais bien revenir déjà dans un premier temps un petit peu à la genèse de Joanne. T'as commencé le surf à 8 ans, je crois, c'est ça?
Ouais, exactement.
Tu es née en France, mais vous êtes très vite allée avec ta famille à l'île de la Réunion, donc on peut dire que voilà, tu es de l'île de la Réunion.
Oui.
Plus que vraiment, tu es née au Puy-en-Velay, je crois, c'est ça.
Oui, bon, voilà.
T'es restée que quelques mois, donc ça compte pas. Toi, du coup, je crois que c'est ton papa qui t'a initié au surf, c'est ça?
Oui, il m'a amené. Enfin, c'est pas lui qui m'a fait vraiment prendre. Qui m'a vraiment initiée. On avait un petit club local sur la plage, là, Étang Salé. Et puis, comme c'était assez petit, c'était un petit village, hein, il m'a amenée. Lui, il connaissait tout le monde parce qu'il surfait déjà depuis quelques années, quand même. Puis, c'était parti, quoi.
qu'est-ce qui s'est passé entre, du coup, Joanne, 8 ans, qui prend ses premières vagues, et Joanne, qui devient professionnelle dans le surf, en fait? À quel moment tu t'es dit... Ouais, ok, je veux en faire mon métier.
C'était vraiment une longue histoire. Hein. Si on prend tout ça à 8 ans, donc je commençais juste. Encore une fois, à La Réunion, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment en faire toute l'année. Donc, il n'y a pas eu de temps mort. Et je crois que c'est vers mes 10 ans que j'ai fait ma première petite compète. Il me semble que ça m'a bien plu. J'ai pas des souvenirs hyper clairs, hyper lucides. Enfin, ouais, c'est pas. Ouais. Mais j'ai des photos et j'ai le smile, donc ça devait me plaire. Et puis voilà, en gros, ça a commencé comme ça. J'ai fait des petites compétitions. On était dans une dynamique à La Réunion à cette époque-là où il y a eu. Il y avait vraiment pas mal de jeunes qui se mettaient au surf. Faut bien comprendre qu'en surf, il y a le côté professionnel et le côté... enfin, en tout cas, il y avait, parce que maintenant qu'on est au jeu, ça commence à évoluer. Mais jusqu'à maintenant, on n'était pas un sport olympique. Et du coup, c'était vraiment le côté privé avec la World Surf League et les marques de surf, on va dire. Et l'autre côté avec la fédération et... avec des compétitions plus classiques, comme des championnats régionaux, nationaux, européens et mondiaux. En gros, il y a vraiment les deux circuits. Et du coup, des petites, j'ai fait un peu tous les circuits. Hein. Quand tu es petit, tu fais un peu le maximum de compétitions, tant que ça te plaît et que tu veux gagner un petit peu en expérience, quoi. Puis surtout quand tu es petit, ouais. C'est juste parce que tu as envie, quoi, hein, clairement. Je pense que quand on est petit, on se tracasse pas. Hein. Quand on n'a pas envie, on le fait pas.
Et, c'est clair.
À l'âge, après voilà, avoir fait quelques compétitions pendant un an ou deux, vers 12 ans, j'ai eu une première marque qui a voulu me sponsoriser, c'était Roxy. Un sponsor, bon, c'est un bien grand mot, mais enfin si quand même. Voilà, c'était histoire. Moi, ce qui me faisait rêver déjà, c'était quand c'était de mettre un sticker sur ma planche, quoi. Hein. D'avoir le sticker Roxy sur ma planche, c'était genre waouh. Et donc c'était vraiment chouette. Cette période-là, c'est là où ça a vraiment commencé un peu plus à devenir sérieux, si je peux dire. Roxy a commencé à m'amener faire des compétitions, genre en Australie, j'avais 13 ans, quoi. Et sur circuit pro, pour le coup, c'était des compétitions professionnelles. T'avais un sponsor qui venait te chercher assez jeune et qui t'amenait un peu à droite à gauche parce que, ben, encore une fois, le monde du surf, c'est un monde très, comment dire, anglo-saxon un peu. Il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Australiennes.
Ouais.
Enfin, d'Australiens. Et puis, il y a peu d'Européens. Et du coup, bah, si t'étais un peu européen et tout, et que les marques voulaient un peu te montrer ce que c'était le niveau, t'étais obligé de sortir d'Europe, en fait.
Finalement, c'est les marques qui sont venues, enfin, la marque, en l'occurrence, qui est venue te chercher,
ouais.
Qui t'a fait prendre la voie du surf professionnel, en fait. Parce que toi, est-ce que toi, juste sans ça, tu te serais dit, bon, bah, ok, je me lance dans une carrière pro, ou bon, bah, t'aurais continué à faire du surf en amateur, on va dire, et puis voilà.
Il faut bien se rendre compte que c'est un sport, si tu veux être professionnel, ça coûte cher. C'est ce qu'on dit, il faut aller aux quatre coins de la planète. Comme c'est une ligue privée, il faut que tu achètes ta licence, il faut que tu payes tes inscriptions, faut avoir des planches de surf. Enfin, ça coûte cher. Et puis, quand tu as 13 ans, tu ne peux pas aller à l'autre bout du monde toute seule, donc il faut payer pour deux. Enfin, au moins pour deux.
Oui, pour ta famille, ou quelqu'un qui t'accompagne.
Voilà, c'est pas possible. Non, à 13 ans, jamais moi ou mes parents, mes parents ou moi, pardon, on se serait dit, allez, on va aller en Australie faire des compétitions pour notre fille qui a 13 ans. je pense pas que ça aurait fonctionné comme ça, non.
C'est une question qui peut paraître un peu bête comme ça, mais tu as commencé un peu à expliquer. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre une surfeuse professionnelle, donc toi, dont c'est le métier,
ouais.
Et deux très bonnes surfeuses qu'on peut voir beaucoup sur Instagram, par exemple, qui en font en amateur. Comment on identifie en fait cette différence-là?
Alors je reviens. Comment dire? C'est si tu veux faire une carrière professionnelle, il faut que tu aies ta licence à la World Surf League, qui est une ligue américaine privée, qui organise elle des compétitions dans le monde entier. Pour il y a plusieurs circuits, donc il y a le circuit junior que j'ai fait moi. Le circuit junior, c'était à mon époque jusqu'à moins de 21 ans. C'est comme ça que j'ai gagné mes titres européens, par exemple, junior.
Ouais.
En faisant des compétitions partout en Europe, il y avait un circuit européen. Donc c'est souvent des circuits. C'est ça qui est bien avec la WSL. En surf, on peut pas vraiment décider qui est champion sur une épreuve parce qu'on dépend tellement de plein d'éléments, des vagues et tout ça. Il faut qu'il y ait vraiment un circuit pour que celui qui a été le plus régulier, en gros, ait le titre à la fin. Et donc, il y a le circuit junior. Et ensuite, il y a le circuit World Qualifying Series. Donc, c'est le circuit qualificatif, en gros. C'est la deuxième division, si on peut faire un peu un parallèle avec le foot. En gros, il y a première division, deuxième division. Et le but ultime, c'est d'être dans la première division. Et dans la première division, il y a 17 filles et ils sont 34 hommes, il me semble. Et la deuxième division et la première division, ce sont des tours mondiaux. Donc, il y a des compétitions partout dans le monde. Et à la fin de l'année, les 6 dernières pour les filles et les 10 derniers pour les hommes redescendent dans la deuxième division. Et les 6 premières et les 10 premières remontent dans la première division pour l'année suivante.
Mais moi, imaginons, qui n'ai jamais fait de surf de ma vie, je décide de m'y affilier, de prendre une licence.
Ouais.
Je vais pas pouvoir concourir avec toi.
Eh ben si, tu peux. Enfin.
Ah bon?
Pratiquement, ouais. Voilà. C'est pour ça que c'est assez. C'est parce que c'est privé. Tant que tu payes pour avoir ta licence et que t'es couverte et tout, t'as pas un niveau à avoir. Enfin, si, t'as un niveau à avoir parce que tu vas pas pouvoir faire les mêmes compétitions que moi. Comment dire? Si tu t'inscris et que tu veux aller commencer à gagner des points. En gros, c'est un peu comme le tennis, je pense. Faut que tu commences à gagner des points. Donc, dans la deuxième division, il y a des compétitions qui sont un peu à différents niveaux. Donc, en gros, tu vas commencer avec les 1000, ils appellent ça, les compétitions 1000. Donc, tu gagnes 1000 points, en gros. Et au fur et à mesure que tu vas gagner des points, tu vas pouvoir augmenter. Donc, quand tu auras gagné quelques compétitions 1000, tu pourras aller faire les 3000. Et ensuite, si tu gagnes dans les 3000, tu vas pouvoir aller faire les 5000. Et ensuite, jusqu'aux 10 000. Et quand tu es sur les 10 000 et que tu es dans la course pour faire partie des 6 premières de ce tour qualificatif, et tu te bats toute l'année pour être dans les 6 premières et ensuite monter du coup dans la première division où nous sommes que 17 filles. Et dans cette première division, en gros, quand tu es dans cette première division, tu as l'opportunité d'être sur le World Championship Tour. Et on a 10 Coupes du Monde sur l'année pour faire un classement. Et voilà. Et ça fait 7, 8 ans. Enfin bon, si on compte cette année 2020 ou pas, en gros, ça fait 7, 8 ans que je suis sur le World Tour et que je suis dans le top 10 mondial.
Donc en fait, effectivement, c'est assez particulier parce que ça veut dire que, imaginons, en fait, il y a plusieurs facteurs. Bon, on va détailler un peu plus, comme ça les gens comprendront encore mieux.
Ouais.
Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est de 1, toi en tant que personne, t'affilier à la fédération.
Ouais.
À la Ligue, et deux, aussi, avoir la possibilité de suivre aussi toutes les compétitions, donc c'est-à-dire d'avoir des sponsors derrière qui peuvent aussi te payer tes voyages, ton matériel, etc. Parce que si t'es, on va prendre moi, Cléo Hénin, qui débarque, qui veut prendre sa licence, mais qui, comme je suis pas très très bonne, forcément personne veut me soutenir, je vais galérer, quoi. Donc en fait, ça n'a pas d'intérêt.
Voilà, ouais. C'est pour ça que c'est... T'as bien résumé le truc, et c'est pour ça que ça part, je pense, c'est un sport qui part très jeune. Bon, après, il y a beaucoup d'autres sports qui partent jeunes, mais effectivement, c'était maintenant ou jamais, en tout cas, quand j'ai eu les opportunités, c'était maintenant ou jamais, quoi.
Je crois qu'en France, t'es une des seules à évoluer au niveau professionnel, si je ne m'abuse.
Enfin, sur la première division, parce qu'il y a d'autres surfeuses.
Sur la première division.
Voilà. Ouais. Elles sont professionnelles quand même en étant sur la deuxième division, mais elles font pas partie des 17 premières, mais elles sont 30 ou 29 ou 35 ou 60, enfin, je sais pas, mais elles sont professionnelles.
Bon, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Comment t'expliques qu'en France et en Europe plus globalement, parce que je crois que bon, on peut faire une constatation un peu plus globale sur l'Europe, il y ait si peu de femmes déjà qui surfent et à niveau professionnel.
Bah ouais, là j'ai fait la constatation cette année. Je suis la seule autre que hawaïenne, californienne, donc on va dire américaine. Parce que dans le surf, quand t'es hawaïen, t'es genre pas américain, t'es autre chose. Non, c'est pour rigoler, mais c'est parce que voilà, les hawaïens ont une place très spéciale dans le surf.
Okay.
Et australienne. Du coup, je suis la seule non, qui vient d'un autre pays.
Américaine, australienne, quoi.
Ouais.
Ok.
Et
comment tu l'expliques? Il y a une explication à ça?
Personne pense en France qu'on peut devenir pro surfeur, quoi. Enfin, pas beaucoup de gens, en tout cas.
Ouais.
Et du coup, il y a moins d'infrastructures, il y a moins de... Après, moi, je me disais pas que j'allais vraiment devenir pro-surfeuse. C'était assez particulier, mais c'est quand même assez fou ce qui s'est passé avec mon parcours. Mais après, il y a d'autres, il y en a d'autres. Donc, chez les filles, je suis la seule. Après, il y en a eu d'autres avant quand même. Mm-hmm. Pauline Adot, par exemple, qui est encore professionnelle. Elle est sur la deuxième division en ce moment, mais elle a fait quand même partie du World Tour pendant 5 ans. Et elle est âgée elle a 2 ans de plus que moi. Du coup, en gros, quand elle avait 18, 20 ans et qu'elle a commencé à être vraiment pro et être à fond, moi, j'en avais 16. Et du coup, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que c'était possible aussi.
J'ai l'impression que sur toutes les manières de fonctionner, tout est très à part. Tu peux pas comparer à un autre sport, en fait. C'est ça qui est assez fou.
ouais, je suis d'accord. Je fais beaucoup de... Alors, autant des fois, mais je suis là, mais heureusement que je fais ce sport parce que d'une, c'est dans des endroits magnifiques. Je suis à la plage. Donc, voilà, je fais que de parler de la plage depuis tout à l'heure. Tout le monde va te dire à la fin de ce podcast, oh, ça va, elle va pas se plaindre, elle passe sa vie à la plage.
Mais c'est clair.
J'en suis complètement consciente et c'est aussi pour ça que j'adore ça et je voyage. Et puis, c'est jamais la même chose aussi. Je peux aller dans l'eau un jour et le lendemain, c'est ça qui est chouette. C'est pour ça que j'en ai pas marre, en fait, maintenant. C'est parce que c'est jamais la même chose. Mais en même temps, bah, c'est ça aussi, des fois, qui rend dingue, parce que t'es dans l'eau et que t'as que 30 minutes pour faire ta compétition et passer ta série. Et puis là, c'était jamais la même chose pendant les 30 minutes, alors que ça fait 3 heures que tu regardes la mer avant et que c'était comme ça. Et que là, c'était pile pour tenter 30 minutes, et ben, c'était différent. Et du coup, bah, t'as pas eu la vague, et du coup, bah, t'as pas pu t'exprimer, et du coup, bah, t'as perdu. Et t'as fait 5000 kilomètres, ça t'a coûté 10 000 dollars et t'as passé 30 minutes dans l'eau et voilà, t'as fait dernière et t'es contente. Et du coup, c'est, ouais. C'est vraiment, c'est ça que j'adore et c'est ça que je déteste des fois.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et d'ailleurs, c'est marrant parce que est-ce que toi, donc, qui es sur le circuit maintenant depuis... alors, tu n'es pas vieille, hein, bien évidemment, mais depuis quand même 15 ans à peu près, on va dire. Et je pense, enfin, j'ose croire que le surf féminin bah, a mis peut-être un peu plus de temps à s'imposer. Est-ce que toi, tu as vraiment l'impression qu'il y a une évolution quand même de ton sport, de la vision qu'ont les gens de ton sport sur ces dernières années?
Ouais, vraiment. Bon, d'une, il y a vraiment le niveau, mais il n'avait rien à voir avant, quoi. Ça a été, quand il y a eu la vague avec Stéphanie Gilmore, Carissa Moore, Coco O, enfin, que des jeunes, en fait, il y a eu une genre de vague de filles qui ont vraiment repoussé un peu les limites et augmenté le niveau de surf. Et en fait, je pense que toutes les générations comme la mienne qui ont suivi, on a été ultra impactées. Et du coup, on a vraiment le niveau à... Autant il a augmenté chez les garçons, mais chez les filles, c'est juste, c'est même pas comparable, quoi. Tout le monde, enfin, j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, mais maintenant, c'est trop cool, je regarde même les filles au live et tout. Enfin, » ça me fait rire. Ça me fait rire, mais je l'entends souvent, mine de rien. « Ah non, mais en plus, même les filles... votre style en plus c'est quand même plus gracieux, c'est trop beau avec la vague, ça fait plus comme une danse, enfin voilà, il y a même des gens qui vont préférer regarder du surf féminin parce que effectivement bah peut-être il y a certaines filles qui ont un style encore plus gracieux que certains hommes. Je dirais que ça a vraiment évolué le milieu et dans le milieu, au sein du milieu, le regard, l'importance que nous les filles on a pareil, depuis que je suis sur le tour, donc j'ai eu de la chance, je suis arrivée en 2014 sur le tour. C'était la première année où il y avait 10 Coupes du Monde. Avant, les filles avaient moins de Coupes du Monde que les garçons et moins de prize money. Bon, les prize money sont égaux depuis un an. Bon, 2020 compte pas, donc depuis un an.
Septembre 2018, moi j'ai noté.
Voilà, c'est ça. Donc bon, ils ont pris un peu de temps avant de les mettre au même à égalité, on va dire. Mais effectivement, il y a ce changement de regard. Et puis doucement aussi, ils vont nous mettre sur les mêmes vagues que les garçons. Donc par exemple, cette année, on a au programme Tupo à Tahiti, qui est une vague où il n'y a que des tubes. Donc les tubes, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est quand tu es vraiment dans la vague et qu'on ne te voit plus, en gros. Et c'est là où c'est le plus dangereux, parce que c'est là où c'est le plus creux, où c'est le plus puissant de la vague. Et Tupo, en particulier, ben, c'est une vague, il n'y a pas d'eau, c'est souvent, ça peut être gros, et c'est assez effrayant. mais voilà, petit à petit, ils vont nous mettre sur des vagues comme ça parce qu'on a prouvé qu'on pouvait le faire, en fait. Et maintenant, en tant que, effectivement, on va dire, vieille du tour, pas totalement, mais presque, je regarde les jeunes qui arrivent, mais c'est incroyable ce qu'elles font. Mais dans quelques années, j'aurai plus le niveau, quoi. Vraiment, c'est chouette de se dire, ben nous, on a influencé une nouvelle génération qui va arriver et qui sera encore meilleure que nous. Et le sport, il avance comme ça. Et c'est franchement, je suis trop contente d'être dans cette position et de voir le surf féminin avancer de cette manière.
Je t'ai aussi entendu dire dans des interviews que ça n'avait pas été facile de t'imposer toi dans le milieu, mais est-ce qu'au sein du milieu du surf, tu sens encore des petites différences quand même?
En tant que fille?
Ouais.
Je pense que j'ai été aussi habituée comme ça parce que bah, quand j'ai commencé le surf, quand t'es au pic, enfin quand t'es dans l'eau, il y a 80% d'hommes. Maintenant, je dirais qu'il y a 80% d'hommes. Avant, il y avait 99% d'hommes au pic et j'ai toujours un peu évolué comme ça. Je sais pas. Alors peut-être que dès petite, je me suis dit que c'était normal et que et puis je me suis jamais vraiment posé la question, mais c'est juste un peu physique au final. Encore une fois, quand tu veux surfer, faut que tu prennes une vague avant pour pouvoir surfer. Et pour prendre une vague, faut avoir des gros bras. Et quand tu fais la compétition avec un homme, bah généralement les bras, c'est les filles, c'est quand même pas notre point fort. Même en tant que professionnelle, je veux dire, on est un peu réduit à ça quand même, mine de rien. Même encore maintenant, quand des fois je suis dans l'eau et qu'il y a des hommes et ils rament plus fort que moi, bah c'est eux qui ont les vagues et c'est comme ça. Je veux dire, mais c'est je me le dis pas, ah bah oui, mais il pourrait me laisser la vague. Ben non, j'ai caramé plus fort. Enfin, pour moi, ben non, on est dans l'eau. Là, on n'est plus une femme, un homme. Enfin, voilà. Ça m'a toujours plutôt poussée à me dire, allez, je vais aller leur montrer, tu vas voir.
Ouais. Le défi.
Ouais, voilà. Et je pense que je fonctionne un peu comme ça aussi, au final. Même quand je vois ma carrière et tout, c'est souvent quand je me dis, allez, je vais leur montrer un peu parce que là.
C'est vrai que j'aimerais bien revenir aussi sur, on va dire, l'image qu'elle surfe. Je trouve que c'est intéressant parce que, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est en train un peu de se déconstruire pendant très longtemps. On associait aussi le surf féminin à la plastique des surfeuses, forcément la beauté, les nanas avec les cheveux mouillés en maillot de bain, dans l'eau, etc. D'ailleurs, c'est marrant, alors je sais pas si c'est le terme, mais quand j'ai été lire une de tes dernières interviews pour l'équipe, j'ai regardé les commentaires. Il y avait 3 commentaires sous ton article. J'ai relevé, c'était très court tous les commentaires, c'était merveilleux. La première, c'était jolie photo, voilà, ça va. Le deuxième, c'était sympa le mini short, voilà le deuxième commentaire. Et le troisième commentaire, qui là, je pense, on est sur l'Oscar, c'était. C'était j'ai la bûche, voilà.
Oh non.
Et donc, si tu veux, je me suis dit merde, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même. Bon, alors, on peut parler peut-être de troll aussi, hein, donc à toujours à pondérer le propos, mais il y a toujours quand même encore cet aspect de la plastique des surfeuses, tout ça. Comment toi, tu le vis? Et est-ce que, est-ce que déjà tu fais attention à ça? Et qu'est-ce que t'en penses en fait?
Ouais, c'est un long sujet, un long débat.
J'imagine
depuis
bien.
Des années. Ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté de lire les commentaires.
Ah, t'as bien raison. Moi, je suis tombée dessus, mais c'est pour ça que je le dis. Mais sincèrement.
Non, mais c'est vrai
c'est
que
c'est pas très constructif.
C'est compliqué parce que, en fait, on a un sport où on va souvent dans des endroits où il fait chaud, donc on est dans de l'eau chaude et tout. Donc les filles, on est souvent en maillot. Ou les garçons en short, hein, voilà. Donc eux aussi, mine de rien, ils sont un peu soumis à ça. Mais c'est vrai que dans ma carrière, j'ai souvent pensé en me disant, tiens, j'aimerais bien être en fait une skieuse ou une snowboardeuse et être emmitouflée sous mes vêtements et qu'on me voit pas quoi.
Ouais.
Je me suis souvent dit ça, effectivement, parce que. Parce que c'est déjà assez dur quand tu es une athlète, en fait, de te faire juger. Sur tes performances, sur ton sport, c'est déjà quelque chose d'hyper personnel parce que tu dédies ta vie à ça, tu fais des sacrifices et tout ça et c'est déjà assez dur. Mais effectivement, quand en plus il y a un regard extérieur qui est humain mine de rien, c'est humain. Moi, je me suis déjà retrouvée dans la position où je côtoie des filles régulièrement, si je la vois et qu'elle a changé, je vais me le dire. C'est quelque chose d'humain. Mais c'est dur à accepter, effectivement, ce jugement en plus sur comment tu ressembles, si t'as passé des vacances il y a pas longtemps et que t'as pris 3 kilos ou ou que en ce moment t'as je sais pas tes règles et que t'as une poussée d'acné pas possible entre guillemets. Hein. Mais effectivement, on est plus sujet à ce genre de jugement. Et c'est pas forcément évident à gérer. Je pense que j'ai eu du mal, moi, quand j'étais plus jeune, surtout, parce que ça affecte énormément en tout cas, chez moi, ça a affecté beaucoup la confiance en soi et tout ça, parce que ça a aussi, au final, c'est allé un peu plus loin. Avec mon premier sponsor Roxy, par exemple, quand ils ont pas renouvelé mon contrat, quand j'étais... Je reviens un peu toujours sur cette histoire, ça fait un peu partie de mon histoire, au final. J'avais 18-19 ans, j'étais pas une grande blonde qui correspondait parfaitement à l'image de la Roxy Girl, on va dire. Et à un moment donné, les gens qui dirigeaient à ce moment-là, ils se sont pas dit, bah ouais, mais... Bah, cette jeune fille, elle va avoir plus de choses à partager, peut-être parce que elle est championne d'Europe junior, parce qu'elle a été vice-championne du monde junior, parce que elle a d'autres valeurs à partager. Non, ils se sont pas dit ça à un moment donné, quoi.
Ouais. Ils se sont focalisés sur des choses plus futiles, on va dire.
Voilà, c'est ou peut-être qu'ils se sont dit et puis après, mine de rien, c'est ce que je dis tout le temps aussi. Tout le monde doit faire des choix. À un moment donné, eux, ils ont fait des choix pour leur business. C'est juste, faut savoir quand t'es un business, qu'est-ce que tu veux partager. Et après, voilà, si eux, ce qu'ils veulent partager, c'est des photos de rêve avec un corps de rêve dans des endroits de rêve. Bon, bah, c'était peut-être pas l'image au final qu'ils voulaient. C'était peut-être pas moi, du coup, qu'ils voulaient. Tant mieux si c'était ça qu'ils voulaient. Mais, je pense que moi, tout ça, je ne le réalisais pas de toute manière à cette époque-là. Donc, moi, ce que j'ai compris à cette époque-là, c'était « Bon, bah, t'es un peu trop ronde, ma fille. Voilà, arrête de manger des gâteaux et va faire du surf. Et puis, que tu sois championne d'Europe ou pas, ou tout ça, on s'en fiche un peu, quoi, en fait. » Alors que, ben, toi, ouais. ça fait, enfin, voilà. En plus, à 18 ans, j'essayais de tout gérer, tu vois. J'étais en train d'essayer de passer le bac à l'époque en même temps. Enfin, j'avais une vie à 1000 à l'heure déjà, quoi. Et j'essayais vraiment de faire de mon mieux et j'ai trouvé que ça a été injuste, en tout cas, à cette époque-là. Et j'ai pas eu vraiment les explications qui allaient avec, etc. Donc, c'est vrai que je l'ai vraiment, voilà, pas très bien vécu à cette période-là et ça m'a suivi un peu, bah, pendant des années après. Et je pense que maintenant, j'ai du recul un peu sur tout ça parce que voilà, c'est ce qu'il faut. Au final, faut grandir après des épreuves qu'on a après cette période-là, en fait, ça m'a permis de vraiment me recentrer sur moi et de pourquoi je le faisais et de comment surtout je voulais le faire. Et du coup, à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, bon, ben, moi, je veux le faire de cette manière. Ce qui me fait rêver, c'est d'être une athlète de haut niveau, une surfeuse de haut niveau. Et ce que j'aime, c'est de travailler et je vais travailler dans l'eau, mais je vais travailler aussi hors de l'eau pour être bien dans ma tête, bien dans mon corps et pouvoir être forte en compétition. En gros, je suis repartie un peu sur ces bases-là. Et là, je l'ai fait pour moi aussi et ça a été un moment hyper chouette au final de ma carrière aussi, de pouvoir un peu faire un reset et recommencer de faire toutes ces choses pour moi et de la façon dont je le voulais et de la manière qui me correspondait, quoi.
Pour revenir sur les sponsors, tu as dit que tu avais eu un petit peu de mal après à retrouver des sponsors. Aujourd'hui, je crois que tu en as une dizaine, ouais. C'est ça ? Dont des sponsors qui sont assez éloignés de l'univers du surf, hein, comme la Française des Jeux, par exemple. Comment t'expliques ce changement et maintenant, maintenant t'es vraiment accompagnée, t'as 10 sponsors. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là pour que ça change ?
Alors, je reviens aussi au début, encore une fois, quand je me suis un peu remis dans la phase, bon, bah, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire. À ce moment-là, je me suis entourée de coachs et tout. Et en 2014, j'ai bossé avec Simon, qui est devenu mon conjoint après. Et on travaille ensemble depuis, donc on est vraiment un peu une équipe. Et depuis 2014, on s'est dit... parce que moi, c'est pareil, en 2014, du coup, c'est ma première année sur le World Tour. Et en arrivant sur le World Tour, je me suis rendu compte, genre je m'étais créé un compte Instagram 2 mois avant pour avec les copines, quoi, comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai travail, que le côté image, et je pense que c'est aussi ce que j'avais pas compris avec Roxy quelques années avant. Il m'a semblé aussi que Roxy, à cette époque-là, m'avait pas donné l'opportunité. Parce que j'étais jeune, je savais pas ce que c'était, moi, du marketing, pas du marketing, une image, pas d'image. Enfin, je comprenais pas. Et ils m'ont pas vraiment donné les moyens, en gros, de me créer une image. Et j'ai trouvé ça génial de me dire que j'avais peut-être une plateforme devant moi qui allait pouvoir me représenter vraiment ce que je suis et pas passer au travers d'une marque ou quoi que ce soit. Surtout pas qu'à l'époque, effectivement, j'en avais pas forcément. Je pense qu'au fur et à mesure, j'ai quand même, je me suis créé une image et au fur et à mesure, ben, il y a des marques qui adhéraient avec ce que je partageais et petit à petit, j'ai eu de plus en plus de marques. Et effectivement, Instagram, oui. ça donne une plateforme pour montrer aux gens c'est quoi ton univers, quoi.
Ça t'a permis de l'exprimer, en fait, aux yeux de tous.
Voilà, je trouve un peu, ça a été un peu comme ça que ça a marché. Parce qu'avant Instagram, le truc principal, c'était de s'entraîner pour faire des résultats. Je me suis toujours dit, non, mais tant que j'aurai des résultats, il y aura bien un sponsor qui voudra de moi parce que je suis athlète, quoi. Enfin, si on me rémunère à un moment donné, c'est pour que je sois performante. Je tiens bien à soulever aussi qu'au début, quand j'avais pas forcément trop de sponsors pour ma première et deuxième année, il y a Jérémy Flores, un autre surfeur, qui m'a aidé financièrement et moralement, je dirais, pour débuter mes saisons. Et maintenant, j'ai plein de sponsors et je les remercie beaucoup parce que je suis trop contente de pouvoir aujourd'hui parler de cette histoire parce qu'effectivement, il y a eu des moments dans ma carrière où j'ai eu moins de sponsors et que ça a été plus galère. Mais je pense que c'est... j'ai pas baissé les bras, j'ai travaillé, j'ai persévéré, accompagné de mes proches qui ont toujours cru en moi. Et puis avec un peu de smile aussi, hein, parce que bon, je me suis toujours dit que voilà, si ça s'arrêtait demain, ça s'arrêtait demain. Et moi, ce que j'aime, c'est toujours le surf. Au final, je surferai toute ma vie et peu importe que je fasse de la compétition, qu'il y ait un sponsor, pas de sponsor ou quoi.
Est-ce que toi, tout ce que tu as vécu, ce par quoi tu es passé, tu as envie de t'en servir positivement maintenant pour aider d'autres gens aussi peut-être?
Bien sûr, ouais, carrément. J'ai pas encore, toutes les formes et de savoir comment je vais pouvoir vraiment transmettre ça à un moment donné. Mais pour transmettre ça, en tout cas, c'est vrai que je commence à y penser. J'ai d'ailleurs organisé, je sais pas si t'avais vu, mais un petit stage avec des filles sur un week-end pour pouvoir aller surfer, faire du yoga, parler de nutrition, parler de la nutrition de la femme aussi en fonction de ses cycles. Bref, ça a été un super week-end. Moi, j'ai passé un super moment. Je pense que les filles aussi. Et j'ai aimé vraiment partager ça et partager des moments dans l'eau. En fait, c'est ce que j'expliquais même aux filles à la fin du week-end, c'est que je les remerciais et c'est vraiment tout ce que j'aime. Bon, d'une, j'aime faire du sport, j'aime manger et j'aime encore plus partager tout ça. Voilà, je pense que ça va être une façon pour moi de le partager à un moment donné et de le vivre avec d'autres gens d'une façon différente. Ça sera important pour moi. Mais donc, via des stages, je pense que pour l'instant, c'est l'idée que j'ai. On verra la suite. Il y aura sûrement d'autres choses à faire. Et
d'autres choses à venir.
Voilà.
Et pour revenir du coup sur ton projet, parce que moi, j'avais vu ça sur Instagram. J'avais trouvé ça top, t'as lancé Women on Waves.
Ouais.
Le premier stage, du coup, c'était en octobre, donc c'est très récent, avec d'autres sportives, en l'occurrence, qui n'ont parfois rien à voir avec le milieu de l'eau. Il y avait Isaura Tibus qui fait de l'escrime. Enfin, il y avait vraiment des gens qui n'ont pas forcément le profil surfeuse de base.
Bien sûr.
Et pourquoi t'as voulu lancer ce projet maintenant et dans quel but?
Alors... plein de choses à dire. J'ai voulu lancer ce projet maintenant parce que 2020, il s'est rien passé. Et que, en fait, je me suis rendu compte vraiment après le premier confinement que j'étais un peu hyperactive, en fait. J'avais l'impression que je faisais rien à l'autre bout du monde sur mes plages, mais en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais chez moi tous les jours, en fait, j'avais vraiment besoin de faire quelque chose. blague à part, je me disais qu'il fallait que je commence à réfléchir un peu à ce que j'allais faire après. Parce que, en étant surfeuse, on n'est pas le genre de sportif où on va pouvoir arrêter de travailler toute notre vie de toute manière. pour revenir à la question d'avant, j'ai envie de le partager avec mon conjoint aussi, donc Simon. On a toujours voulu, on a ce projet de faire ça après, de faire des stages. Et là, cette année, j'ai voulu créer un truc un peu plus exclusif, un peu plus, entre filles, parce que Sim avait pas trop le temps cette année, lui, il a eu d'autres choses à faire. Et du coup, je me suis dit, je vais créer un truc où il n'y ait pas l'entraînement physique dedans, mais il y ait, ce soit vraiment pour les filles. Parce que je pense que dans ma carrière, j'ai quand même vécu des choses en tant que femme où il y a peut-être que des femmes qui vont pouvoir ressentir ou comprendre le message que j'ai à faire passer, quoi. Du coup, c'était le moment un peu idéal, j'ai trouvé, en me disant, je commence maintenant parce que aussi, moi, ça me fait du bien aussi en tant qu'athlète de me dire que j'ai d'autres projets qui vont arriver, enfin, qui vont me tenir à cœur pour plus tard. Plus t'es ouverte, je trouve, plus t'as des choses à, des projets, des choses à construire, et ben plus t'es vivante. Enfin, je sais pas, j'en ai besoin.
Trop bien. Pour conclure, plus ou moins, il me reste encore quelques petites questions, mais pour conclure, comment tu définirais la femme que t'es maintenant, aujourd'hui?
Waouh, c'est dur. Je dirais que dans une carrière ou dans une vie, il y a beaucoup de choses qui dépendent de toi. C'est toi, tous les matins, qui va te dire « Ok, j'y vais, quoi. Je mets ça en place. Petit à petit, tu construis des choses. » Mais je dirais aussi que t'as vraiment besoin d'aide. Faut pas hésiter à demander de l'aide à droite, à gauche. Enfin, je sais que dans les moments où t'as pas le moral, où tu perds tes objectifs de vue et tout, t'as vraiment besoin d'avoir un entourage proche qui croit en toi sincèrement, on va dire, parce que c'est important. Ça t'aide à continuer à y croire tous les jours. Et puis je pense que ouais, je suis quelqu'un qui aime rêver, qui aime se dire que tout est possible, qui aime l'aventure. J'aime un peu, partir. Ça me fait pas peur de partir à l'autre bout du monde, de pas trop savoir où est-ce que qu'est-ce qui va se passer ou quoi. Mais enfin, je suis quelqu'un d'assez simple au final. Voilà, moi, je sais que toute ma vie, enfin, on en parle souvent avec mon conjoint. Bon, c'est assez personnel, mais tant qu'on fera du sport. On fera nos petits repas et qu'on fera notre sieste. En gros, hein, j'exagère, mais on sera heureux. On vit avec pas grand-chose au final.
Et dernière question qui clôt à chaque fois notre podcast. Si tu devais donner une définition de ce qu'est une championne, quelle serait-elle ?
Pour moi, une championne, c'est déjà quelqu'un de humble. Parce que plus tu avances et plus tu es bon dans quelque chose, je pense que plus tu te rends compte qu'il y a encore des choses à apprendre. En fait, on n'est jamais assez bon. Et c'est quelque chose de... Cette recherche perpétuelle d'amélioration, je pense que ça définit assez bien une championne ou un champion. Et voilà, une capacité à prendre du recul aussi sur les événements. Et voilà, je dirais ça.
Ça marche, parfait. Et puis du coup, juste pour clore aussi, c'est vrai j'en ai pas reparlé, on en a parlé un petit peu. Forcément, là, 2021, c'est les Jeux Olympiques. C'est la première fois que le surf est au JO. C'est quoi tes objectifs ?
Ah oui, c'est quand même important.
Bah oui, quand même.
Les Jeux.
pas en parler.
Super important. Non, mais c'est ouf. Comme j'expliquais, nous, sur le circuit, on est généralement... notre classement de fin d'année, c'est ça qui compte parce qu'on sait que en surf, c'est tellement compliqué de performer sur un événement. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. Donc ça va être vraiment, on va dire, un nouvel élément, enfin, quelque chose de différent en tout cas par rapport au surf de compétition que je fais jusqu'à maintenant, enfin, que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et puis après, je suis juste pressée en fait de voir commencer en fait les jeux, de pouvoir les expérimenter, de voir est-ce que vraiment on ressent cette chose qui est extraordinaire d'après ce que tous les autres athlètes disent. Est-ce que je vais être vraiment plus stressée? Est-ce que je vais être encore plus dans des sensations profondes et être encore plus en confiance? Je sais pas, ça va être c'est tout nouveau et donc je vais prendre ça plutôt comme une expérience en se disant que je donnerai du mieux que je peux, quoi.
Le max.
Yes. Comme d'hab, en fait.
Bah écoute, on te souhaite que ce... Ouais, c'est bien de le préciser. Bah, on te souhaite que ce soit une expérience cool, en tout cas. Et je pense que ça risque d'être... Déjà, tu pourrais dire que t'as participé au premier JO de l'histoire en surf. Et ça, franchement, déjà, ça claque.
Ouais, bon, allez. Alors, je vais te dire une phrase de championne. Non, je rigole. On n'est pas là pour participer, on est là pour gagner.
Ouais. Oh là là. T'as bien raison.
Non, on va voir. On va voir.
Trop bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton temps. C'est super gentil. Et puis encore plein d'années de bonheur sur les vagues et ailleurs.
Ouais, bah merci à toi et merci d'avoir pris le temps de parler vraiment du surf et de comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que dans des interviews ou quoi, j'ai jamais vraiment le temps. Et j'espère que ça aura intéressé quelques personnes de mieux comprendre comment ça fonctionne.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.